12e et 13e, pour cette 11e leçon, nous revenons à l'écriture, d'une certaine manière. Au début, on avait commencé, vous vous souvenez, avec le catéchisme, et puis l'Ancien Testament, la Genèse et le péché de David, et puis le Nouveau Testament, puis on avait quitté l'écriture après 3 leçons sur l'écriture. Maintenant, on y revient. On m'avait posé d'ailleurs la question, pourquoi est-ce que vous y revenez si tard, etc. Et voilà, je crois que vous allez comprendre. Et le titre, c'est « Dieu n'a pas fait la mort ». C'est un verset, partie du verset de Sagesse 1, 13. La Sagesse est donc un livre de la Bible, du genre sapientiel, comme on dit, du genre donc, de la sagesse. Hein. Il y a différents livres de la sagesse. Et vous voyez que c'est chapitre 1, verset 13, donc c'est tout au début. Tout au début. Donc c'est assez important. Et souvent, ce verset est évoqué parce qu'il est très clair. Dieu n'a pas fait la mort. Il est très clair parce que dans ce cas-là, c'est si Dieu n'a pas fait la mort, c'est donc le péché de l'homme qui a fait la mort, comme de nombreux versets de la Bible le disent. Mais est-ce qu'il en est bien ainsi? Est-ce que c'est si clair que ça, hein? Parce que je vous ai mis tout de suite, là, dans le sous-titre de la feuille de route, eh bien, un autre verset de la sagesse, Siracide. Il y aura beaucoup de versets de Siracide. Hein? Siracide 11, 14, qui dit « Bien et mal, vie et mort, pauvreté et richesse, tout vient du Seigneur. » Ah, voilà qui est un peu différent, déjà, hein? Et vie et mort viennent du Seigneur, bon, oui, mais bien et mal. Ça, c'est un peu inquiétant, non? Pauvreté et richesse, bon, soit, ce sont des biens terrestres, bon, mais vie et mort, bien et mal viennent du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans la Bible, on trouve souvent des affirmations contradictoires. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière que vous trouverez. Mais justement, quand vous en trouvez une, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Parce que, même dans l'Évangile, hein, il y a des affirmations un peu contradictoires. Alors, il faut les voir de près, les analyser, parce que, c'est ma conviction, je crois que c'est la conviction des chrétiens, c'est qu'il y a une vraie révélation dans ces textes, que ces textes ont quelque chose à dire, même si apparemment il y a des contradictions, etc. Il faut donc creuser pour voir ce qui est dit à travers non pas un verset, mais à travers l'ensemble de la Bible et l'ensemble des livres de l'Ancien Testament et l'ensemble des livres du Nouveau Testament et de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que c'est une révélation, et une révélation qui vient progressivement, où Dieu pédagogiquement nous explique des choses, et c'est dans la vie, la mort et la résurrection de son Fils, évidemment, que la révélation s'accomplit. Ce n'est pas dans les textes. Hein? Dans les textes, bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui s'accomplissent. Mais c'est la mort, c'est la vie, la mort et la résurrection du Christ qui accomplissent la révélation. C'est ça la vraie révélation. Et tous les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament ne font qu'expliquer, préparer et puis expliquer cet événement de la révélation. Hein? L'incarnation du Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection. Donc il faut bien voir tout ça de près. Alors on va faire un peu de gymnastique, hein, de gymnastique exégétique, comme on dit, on va essayer d'analyser quelques textes, mais je vais aller à reculons. Je vais donc prendre le magistère aujourd'hui, donc les textes un peu dogmatiques aujourd'hui, et puis petit retour à saint Augustin et saint Thomas que nous avons déjà vus, et puis nous allons aller à une enquête biblique. À la page de verso de votre page, de votre feuille de route. Donc voilà, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a des espèces d'affirmations qui nous semblent contradictoires. Hein. Genèse 2, 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc ça veut dire, semble-t-il, dans une première lecture obvie, que eh bien, si on ne mange pas de l'arbre, on ne mourra pas. Et donc, c'est la décision même de l'homme d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui fait surgir la mort, qui le conduit à la mort. Et donc l'homme aurait inventé la mort, créé la mort, ou décréé la vie, je ne sais pas comment dire. Hein. Mais en tout cas dans ce verset, Dieu semble quand même déjà savoir ce qu'est la mort. Il prévient qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais est-ce que l'homme va créer la mort par son péché? Rainer parle d'une décréation, et justement de l'impossibilité d'une décréation. Ce que Dieu fait, l'homme ne peut pas le décréer ainsi, hein, d'un coup de baguette magique. Il n'y avait que la vie, et maintenant, tout à coup, il y a aussi la mort, et peut-être même principalement la mort. C'est une décréation, l'homme n'a pas la puissance de décréer. Mais enfin, sagesse donc, il y a non seulement ce verset, Dieu n'a pas fait la mort, mais un peu plus bas, le dernier verset du chapitre 2 de sagesse, nous avons « Par l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde ». Par l'envie du diable, alors maintenant on fait intervenir le diable, la mort est entrée dans le monde. Romain reprend cette affirmation en 5.12, par un seul homme le péché est entré dans le monde, cet homme c'est Adam, hein, pour Saint Paul, par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Donc voilà, on voit bien toutes ces affirmations qui vont dans le même sens, que c'est le péché de l'homme qui a provoquer l'apparition de la mort. Alors on voit que il y a différentes médiations, il y a le diable, l'homme, le péché, la mort. Hein? Il y a une série, une chaîne, le diable qui inspire l'homme, qui fait le péché, et le péché provoque la mort. Mais si Racine fait un raccourci, hein, le diable, la mort. On ne parle pas de l'homme ni du péché. Saint Paul, lui, va déjà un peu plus dans les détails, il parle du péché, de l'homme, du péché, de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi être entré dans le monde? Qu'est-ce que c'est le monde? Qu'est-ce que c'est le monde? Alors, vous allez dire, ben, c'est sans doute le monde, ben voilà, ben, tout le monde sait bien ce que c'est le monde, hein, c'est l'univers, etc. C'est pas si sûr, hein? C'est pas si sûr que les gens de l'Ancien Testament pensaient que le monde, c'était l'univers physique de la relativité, hein? Ben, évidemment que non. Alors, ils ne disaient pas le contraire, mais qu'est-ce que c'est le concept de monde? Chez Saint Jean, par exemple, il dit... Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Oh ben, comment il fait celui-là alors, hein? Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Donc on voit bien dans cette formule, que je ne peux pas creuser ici, mais que le mot monde, ce n'est pas simplement être dans l'univers physique. Parce que qui peut dire, hein, je ne suis pas du monde? Ben oui, on est dans le monde, et donc on est du monde. Donc le concept de monde aussi doit être un peu travaillé sans doute. Mais je passe donc aux affirmations qu'aujourd'hui on entend. Alors vous allez me dire, mais est-ce que tout ça a vraiment un intérêt pour aujourd'hui de savoir si Adam, etc. Eh bien, je crois que derrière ces questions, il y a des questions existentielles. Derrière le fait de savoir si l'homme a été créé mortel, la vie que Dieu a donnée est une autre vie que celle que l'on a. Et puis après, on nous dit qu'après la mort, maintenant, il y aura la résurrection, donc la vie éternelle. Au fond, ça nous pose la question de qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie que Dieu nous donne? Qu'est-ce que la vie que Dieu nous donne sur Terre? Qu'est-ce que la vie que Dieu nous donne au-delà de cette Terre, peut-être? Ou qu'il nous avait déjà donné avant? Donc ça pose la question profondément existentielle, je crois, de la qualité de la vie du chrétien. Qu'est-ce que c'est cette vie du chrétien? C'est la vie que nous vivons, mais... qu'est-ce que ça a comme valeur métaphysique, morale? Qu'est-ce que la vie, au fond, hein? Donc voilà, c'est un peu avec des questions sur est-ce que le péché a fait entrer la mort dans le monde, qu'on se pose en fait des questions profondes sur qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que Dieu nous a donné en nous rendant des êtres vivants? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous avons à recevoir? Et quand on se pose la question de la faute de l'homme par rapport à cette vie, cette mort, on se pose au fond la question de savoir le sens de notre responsabilité par rapport à cette vie. Qu'est-ce qu'on fait de cette vie? Est-ce qu'on la gâche? Est-ce qu'on en fait de la mort? Ou est-ce que, au contraire, on la reçoit et on l'exalte et on la vit à fond, même s'il y a peut-être des souffrances, même s'il y a peut-être la mort physique? Qu'est-ce que nous faisons de cette vie? Quelles sont les conséquences de nos actes, celui d'Adam, mais aussi le nôtre, hein? De notre vie. Je crois qu'au fond, ce sont là les questions existentielles qui sont en dessous de ces questions un peu lointaine, hein, que beaucoup de gens peut-être aujourd'hui diraient, ben, enfin, les chrétiens, ils s'amusent avec des trucs, enfin, ça fait 2000 ans, 4000 ans qu'on ne pense plus comme ça. Hein. Eh bien, nous pensons, nous essayons encore de trouver quelque chose là-dedans, parce qu'au fond, c'est le sens de la vie que Dieu nous donne et le sens de notre responsabilité par rapport à cette vie. Alors voilà, le magistère actuel, ça veut dire ce que dit l'Église, hein, actuellement, eh bien, je vais le chercher dans le catéchisme de l'Église catholique. Et dans l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Alors voilà donc deux volumes, un qui a été publié par Jean-Paul II en 1992, beaucoup plus épais comme vous voyez. Hein. J'en ai déjà parlé dans la première leçon. Je vais un peu confronter des affirmations qui sont ici entre elles et à celles qui sont ici dans le résumé, dans l'abrégé que Benoît XVI, oui, a voulu publier en 2005 et qui se présente, comme vous savez, dans ce catéchisme. Ce sont des chapitres. Ici, ce sont des questions. Questions-réponses, 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 comme dans les bons catéchismes que nous avons étudiés, sans doute, peut-être pas tous, mais en tout cas les âgés d'entre nous, moi par exemple, hein, connaissez tout le catéchisme par cœur, hein, c'était l'exploit. Il y a 598 questions. Et parmi ces questions, eh bien, il y en a qui ont rapport avec les questions que je me pose et qui sont un peu en contradiction avec les affirmations qui sont ici dedans. Vous allez dire, comment est-ce que ça se fait ça? Eh bien oui, c'est tout à fait clair, vous allez le voir. Hein. Donc, abrège tellement, que eh ben, y a quelques nuances qui s'en vont. Hein. Quelques nuances qui s'en vont. Et je crois que ces nuances sont importantes. Ici, on a un discours à peu près univoque, hein, qui tient la route d'un bout à l'autre, mais qui tient une position traditionnelle, c'est que c'est donc le péché de l'homme qui a introduit la mort, oui, la mort, point. Et ici, c'est plus nuancé. Hein. Alors, on va essayer de voir comment. L'abrégé, par exemple, à la question 57, se pose la question. Si Dieu est tout-puissant et providence, pourquoi alors le mal existe-t-il? Ben oui. Réponse. Alors, les italiques sont dans le texte. Les gras, c'est de moi. Hein. Seul l'ensemble de la foi chrétienne, c'est important, peut donner réponse à cette question, à la fois douloureuse et mystérieuse. En aucune manière, Dieu n'est la cause du mal, ni directement, ni indirectement. Il éclaire le mystère du mal par son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour vaincre le grand mal moral qu'est le péché des hommes, racine des autres maux. Dieu n'est la cause du mal, ni directement, ni indirectement. Et puis on parle du grand mal moral et la racine des autres maux. Quels sont ces autres maux que le mal moral ne précise pas? Eh bien, je trouve que ce n'est pas vraiment ce qu'on dit au numéro 311 du catéchisme, hein, où on dit « Les anges et les hommes, créatures libres et intelligentes, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et amour de préférence. » Nous avons déjà lu ce paragraphe. Hein. Ils peuvent donc se dévoyer. Il y a une liberté. Elle peut se dévoyer, sortir de la voie. Hein. En effet, ils ont péché. De fait, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde. L'italique est du catéchisme. Hein. C'est pas moi qui l'ai mis. Le mal moral est entré dans le monde sans comme une mesure plus grave que le mal physique. Donc ici, on distingue le mal moral et le mal physique. C'est le péché qui a introduit dans le monde le mal moral. Alors en gras, une phrase qui ressemble très fort à la précédente, en gras, Dieu n'est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral. Ah. Au-dessus, on disait, n'est indirectement cause du mal, point. Donc sans la nuance entre mal physique et mal moral, je trouve que c'est une abréviation un peu cavalière quand même, hein, parce que la nuance est importante. Hein. Dieu n'est pas la cause du mal moral. Et l'homme a introduit dans le monde le mal moral. Mais la question du mal physique, donc, là, elle est complètement suspendue, hein, à un autre discours. Et on vient à l'appui avec Augustin et Thomas, les deux grands penseurs, évidemment, Dieu permet cependant le mal moral, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Alors, ce ne sont pas du tout des coquilles d'impression, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, on voit bien que le catéchisme avait une nuance importante, hein, avec le mal physique et le mal moral. C'est le péché qui introduit le mal moral. Alors, est-ce que ce mal moral a introduit la mort? Ça, on verra. En tout cas, c'est le mal moral. Et Dieu n'est pas la cause de ce mal moral. Pour le mal physique, ben, nous allons voir. Alors, de nouveau, à la question 72 de l'abrégé, quelle était la condition originelle de l'homme selon le projet de Dieu? Donc, cette fameuse question des comment était l'homme au paradis, hein, avant le péché, quand sa liberté n'avait pas encore failli, hein, qu'il n'y avait aucune introduction d'acte mauvais, si on veut, dans la vie de l'homme. En créant l'homme et la femme, Dieu leur avait donné une participation spéciale à sa vie divine. C'est ce qu'on appelle les dons préternaturels, hein, une participation spéciale, par grâce, hein, dans la sainteté et la justice. Donc l'homme a été créé dans la sainteté et la justice. Alors l'abrégé dit, dans le projet de Dieu, l'homme n'aurait dû ni souffrir, ni mourir. C'est moi qui mets en gras. En outre, il régnait une harmonie parfaite de l'homme en lui-même, entre la créateur et le créateur, entre l'homme et la femme, comme aussi entre le premier couple humain et toute la création. Donc cette idée que l'homme, dans le projet de Dieu, n'aurait dû ni souffrir, ni mourir. Alors, on en a déjà parlé, hein? Mais donc, je contrapose à cela quatre numéros du catéchisme, un qui vient dans une partie sur la création et l'autre qui vient dans une partie sur la résurrection. 385. Personne n'échappe à l'expérience de la souffrance. Des maux dans la nature qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures. Et surtout, personne n'échappe à la question du mal moral. Alors, vous voyez que là, de nouveau, c'est bien nuancé. Hein? Est-ce qu'on parle de avant le péché, après le péché? Bon, ici, c'est l'homme créé. Hein? On est dans le paragraphe sur la création. Et on dit, personne n'échappe à l'expérience ni à la question. Donc, il y a l'expérience du mal physique et la question du mal moral. C'est deux choses différentes. L'expérience du mal physique, des maux dans la nature qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures. Donc toute créature, l'homme y compris, eh bien, ne peut pas échapper à l'expérience de la souffrance et des maux dans la nature. C'est pas tout à fait la même chose que de dire que dans le projet de Dieu, l'homme n'aurait dû ni souffrir ni mourir. Alors vous allez me dire, on décrit une situation de fait, et là on décrit le projet de Dieu. Oui, mais c'est quand même en 385 la question de la création, hein, qui est là. Alors, dans le catéchisme, dans les numéros 1006, 7 et 8, ils se tiennent, parce que le 1006, en fait, se décline ensuite en 7 et 8. En un sens, la mort corporelle est naturelle. Mais pour la foi, elle est en fait salaire du péché. Alors vous voyez que là, il y a une nuance importante, hein, une distinction très importante. En un sens, mais en un autre sens, pour la foi. En un sens, quel est ce sens? C'est le sens qui n'est pas de la foi. Ben, c'est le sens qui ne s'inspire pas directement de la foi, c'est le sens commun, c'est le sens scientifique peut-être, mais c'est le sens philosophique. En un sens, la mort corporelle est naturelle. Est-ce que ça veut dire que pour la foi, elle n'est pas naturelle? Pour la foi, elle est, à mon avis, quelque chose de plus. Elle est en fait salaire du péché. Pour la foi, elle est en plus quelque chose comme salaire du péché. En tout cas, vous voyez bien qu'on distingue ici la mort corporelle. Hein, on parle bien de la mort corporelle. Elle est à la fois naturelle et à la fois conséquence du péché. Alors, on décline cela. Hein, elle est naturelle, ça veut dire 1007. Elle est salaire du péché, ça veut dire 1008. 1007. La mort est le terme de la vie terrestre. C'est naturel. Nos vies sont mesurées par le temps au cours duquel nous changeons, nous vieillissons. Et, comme chez tous les êtres vivants de la Terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Voilà, c'est la vie terrestre, la vie de créature sur la Terre. Nos vies sont mesurées. Nous changeons, nous vieillissons. Et puis, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Comme chez tous les êtres vivants. On est mis là sur le même pied que tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, etc. Alors on voit bien que cette conception-là est plus moderne au sens où elle fait droit davantage à peut-être, évidemment, à la théorie de l'évolution, à la science en général, mais aussi à la philosophie, sans doute, contemporaine. Mais on n'enlève pas le fait que, aussi pour la foi, alors est-ce que ce second sens exclut le premier? Je pense que non. Mais pour la foi, elle est en fait salaire du péché. Alors ça a l'air quand même de donner une plus grande insistance sur cette seconde raison, parce qu'elle est pour la foi. À mon avis, il y a cette insistance parce que, en dehors de la foi, il n'y a pas moyen de voir cela. Il n'y a pas moyen de voir cela. La première chose, il y a moyen de le voir sans la foi. Mais la seconde chose, il n'y a pas moyen de le voir sans la foi. À mon avis, ces deux affirmations ne s'excluent pas. On l'explicite, bien que l'homme possédât une nature mortelle. Même là, on dit que l'homme possède une nature mortelle. Sa nature de créature est mortelle. Dieu le destinait à ne pas mourir. Dans son projet, le destinait à ne pas mourir, quoi qu'il soit mortel. Donc c'est quand même important, Dieu n'a pas créé un homme immortel, il a créé un homme mortel qui est destiné à ne pas mourir. Vous voyez la nuance, hein ? Il a créé un homme mortel qui est destiné à ne pas mourir par grâce, par exception. Ce qui différencie l'homme de tous les animaux, c'est justement qu'il est appelé à une autre vie. Alors est-ce que cette autre vie est simplement aussi une vie biologique immortelle ? C'est là la question que je pose. À mon avis, il s'agit d'une autre vie, de la vie éternelle, de la vie de la résurrection, de la vie de la foi, de la vie de la grâce, etc., de la vie surnaturelle, mais Dieu le destinait à ne pas mourir physiquement, ou bien de manière donc dans une immortalité qui n'est pas directement relationnée au monde physique. La mort fut donc contraire au dessein de Dieu créateur, elle entra dans le monde, la mort, comme conséquence du péché. Donc là, vous voyez qu'on maintient l'autre affirmation, celle que, au fond, l'abrégé a retenu uniquement. Ce qu'a retenu uniquement l'abrégé, c'est la seconde explication. Tandis que le catéchisme met les deux côte à côte, en essayant plus ou moins de les harmoniser. À mon avis, elles sont harmonisables. Mais il ne faut pas trop se focaliser sur le fait que la vie mortelle ou la vie à laquelle Dieu nous destine pour toujours, est une vie biologique. Si on pense ça, à mon avis, on essaye de faire du concordisme. On essaye de faire du concordisme, ça veut dire on a la science d'un côté, on a la foi de l'autre, et il faut que ça se corresponde terme à terme. Que toute affirmation de l'un est vraie dans le discours de l'autre et inversement. C'est du concordisme. Le concordisme, donc, c'est une bijection trop parallèle. Il ne doit pas y avoir désaccord, mais je crois qu'il y a amplification des affirmations d'un discours dans l'autre. Il n'y a pas simplement correspondance. Ce n'est pas une traduction simultanée, si on veut. Donc voilà, comment éviter ce concordisme sans être évidemment en contradiction avec les théories scientifiques et la théorie de l'évolution qui, ça c'est un avis personnel, peut encore beaucoup évoluer. La théorie de l'évolution. Parce qu'on croit qu'on a tout compris. Moi je compare parfois ceci, c'est un immense puzzle comme celui de toute la pièce par exemple. Et on a 62 pièces comme ça, minuscules, qui sont dispensées. Et puis on a vu que ça faisait une ligne droite. Oui, mais il manque 4 millions de pièces encore. On a un certain nombre de pièces, c'est vrai, mais l'explication vraiment déductive, pas intuitive, pas inductive de la théorie de l'évolution, elle est encore loin d'avoir été fournie. Et donc, bon, il y a toutes sortes d'arguments qui, à mon avis, sont très valables. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et dans notre imagination, qui n'est pas plus, tellement plus intelligente que celle de l'écrivain de la Genèse, à mon avis, dans notre imagination, on a vite fait les dinosaures et puis tout ça, et puis bon, et puis on arrive à l'homme qui n'a ni plume ni poil. Bon, mais à mon avis, ça va un peu vite. Donc voilà, je crois que cette théorie est sans doute valable, mais scientifiquement, il faut encore attendre pour vraiment dire ça, c'est la vérité par rapport à laquelle toutes les autres doivent s'incliner. Voilà donc ce que dit ici le catéchisme et l'abrégé. Vous voyez que nous nous trouvons dans un magistère de l'Église aujourd'hui qui n'est pas entièrement cohérent, entièrement bétonné. Il y a deux positions et l'Église n'a jamais canonisé, comme on dit, elle n'a jamais dit que la seule vraie c'était ceci ou la seule vraie c'était cela. Les théologiens continuent à discuter. Vous savez bien que saint Augustin, on l'a vu, eh bien dit que l'homme avait une nature qui pouvait mourir ou ne pas mourir selon qu'il accepte ou non la grâce de Dieu. Et donc c'est tout à fait cohérent avec la position plus moderne. Alors il pouvait mourir ou il pouvait ne pas mourir, et comme il a choisi, eh bien maintenant il doit mourir. Alors, chez saint Thomas d'Aquin, nous avons aussi quelques formules assez claires. Je vous l'ai déjà dit par blague. Est-ce que Adam était immortel? Oui. Pour combien de temps était immortel? Pour un certain temps. Donc, il n'était pas immortel pour l'éternité divine. Il était immortel pour un certain temps. Et c'est là qu'il est toujours précieux de citer la strophe 25 de Peggy. Donc dans Ève, un grand poème de 1914, la 25e strophe dit ceci sur la mort. C'est un magnifique poème qui retrace tout le dessein de Dieu créateur, et puis il arrive à dire ceci. Ce qui, depuis ce jour, est devenu la mort, n'était qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts, le jour de s'en aller était comme un beau port. Voilà, on est arrivé au port et on passe à Dieu. On passe en Dieu. Après cette vie sur terre. Saint Thomas a aussi, je vous donne deux citations dans le syllabus à la page 156, a aussi des affirmations qui sont très claires dans ce sens-là, que le mal physique pour lui n'est pas fait partie de la création, le mal moral pas, mais le mal physique bien. Or on dit que Dieu fait le mal ou le crée en tant qu'il crée des choses bonnes en soi mais nocives pour les autres. Par exemple, le loup, bien qu'il soit un certain bien de nature dans son espèce, est mauvais pour la brebis. Ce sont les exemples de saint Thomas, toujours clair. Voilà, le loup, il est bon, mais il est mauvais pour la brebis. Mais la brebis est mauvaise pour l'herbe, puis etc. Bon. C'est de la même manière que Dieu est cause des maux humains, que l'on appelle peine. C'est aussi ce qu'explique saint Grégoire. Même les maux qui ne subsistent dans aucune nature sont créés par le Seigneur. Mais on dit qu'il crée les maux lorsqu'il change en fléau les choses créées bonnes en soi. Donc une chose qui est bonne en soi devient un fléau, et ce changement est attribuable à Dieu puisque c'est celui qui a tout fait. Je vous ai déjà dit aussi que pour saint Thomas, tout ce que nous faisons nous-mêmes, c'est comme si nous en tirons notre énergie de Dieu pour le faire. Et donc lorsque moi je fais le mal, c'est grâce à l'énergie que Dieu me donne. Et donc fine et finalitaire, au bout du compte, c'est Dieu qui fait le mal que je fais, puisque c'est moi qui dévie son énergie pour faire cela. Alors, cette énergie n'était pas destinée à faire le mal, c'est moi qui l'ai détournée. Mais c'est quand même Dieu qui me donne cette énergie. Autre citation de saint Thomas, puisque Dieu est le pourvoyeur de l'étang en son universalité. C'est ce que je vous disais. Dieu, il est partout, il fait tout. Il n'y a rien qui se fait en dehors de Dieu, en dehors de l'énergie divine. Puisque Dieu est le pourvoyeur de l'étang en son universalité, il appartient à sa providence de permettre certains défauts à l'égard de telles choses particulières, afin que le bien parfait de l'univers ne soit pas empêché. Donc il voit l'ensemble de l'univers. Si Dieu s'opposait à tous les maux, beaucoup de bien ferait défaut à son œuvre entière. Si Dieu passait son temps à arrêter tout le monde qui fait le mal, ben on serait un peu bloqué. On serait un peu tous arrêtés, comme un, deux, trois pianos, là-bas, on est tous là comme ça. Dieu arrête, je suis là, viens, d'abord. Alors, finalement, on est tous arrêtés et le monde n'avance pas beaucoup. Alors, les maux seront évités, mais le bien ne sera pas fait non plus, parce que c'est pas avec ces 1, 2, 3 pianos que l'humanité va vraiment avancer dans son progrès, ni scientifique, ni moral non plus, si Dieu veut arrêter tous les maux. 1, 2, 3 pianos, c'est pas un temps. Sans la mort, voilà ce que dit saint Thomas, sans la mort de beaucoup d'animaux, la vie du lion serait impossible. Et la patience des martyrs n'existerait pas sans la persécution des tyrans. Ah, eh bien, pour qu'il y ait des martyrs, il faut des tyrans. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit que sans la persécution des tyrans, eh bien, la patience des martyrs n'existerait pas. Alors, il ne faut pas inverser la causalité, mais c'est un constat. C'est un constat que fait saint Thomas, très réaliste, comme je vous l'ai toujours dit. Lui, il voit les choses, c'est comme ça, eh bien, voilà. Alors, je pense que les grands théologiens contemporains, ils sont tous morts, mais Rahner, Balthasar, Barthes, ils prennent toute cette position-là. Aucun ne pense vraiment que le péché de l'homme a été la cause de la mort physique. Non seulement de l'homme, mais certains disent même de tous les animaux. La mort est entrée dans le monde par le péché de l'homme. Il voit une espèce de décréation. Il y avait des lois physiques différentes. Alors, il y avait le péché originel. Toutes les lois physiques ont changé. Il faudrait interroger un physicien pour savoir comment on peut, avec un coefficient moral, changer toutes les lois physiques. Il y en a qui tiennent ça, plus ou moins, oui. Mais Rahner, certainement pas. Barthes non plus. Et Balthasar, bien, il fait entendre aussi dans différentes critiques qu'il n'est pas d'accord avec cela. Alors vous allez me dire que j'ai peut-être rejeté le trouble dans vos esprits, parce que maintenant on ne sait plus où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que Dieu voulait faire, comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est la vie, refaisons un peu une enquête biblique avec trois points, comme vous voyez, texte semblant admettre une mort naturelle de l'homme, j'en ai cité là toute une série, il y en a plusieurs qui viennent de Siracide. Texte semblant favorable à une causalité physique plus directe, péché, donc mort. Et puis, je voudrais faire une analyse un peu plus approfondie de ce fameux chapitre 1-2 de Sagesse, dont on tire le verset « Dieu n'a pas fait la mort ». Dans son contexte complet, parce que quand on ne tire pas le verset de son contexte, on voit que le contexte est plus moral que métaphysique. On va voir comment. Le contexte complet ne fait pas un traité de métaphysique sur l'être et le non-être, la vie et le non-être. Non, c'est un discours moral. Et puis, une comparaison avec le Christ. Texte semblant admettre une mort naturelle de l'homme. Deutéronome 30, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Je mets devant toi. Alors, vous allez me dire que ça, c'est après le péché originel, oui, mais lorsque Dieu dit qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la même chose, non? C'est pratiquement la même chose. Là évidemment, il n'y a pas encore eu de péché, mais tout homme, comme disent certains philosophes, tout homme, d'une certaine manière, est Adam. Je suis Adam. Cet homme, c'est toi. Vous vous souvenez que le prophète Nathan disait cela à David, bien Kant l'appliquait à tout homme. Cet homme, c'est toi. Tout homme est Adam. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Alors je trouve que ici c'est très intéressant aussi. Il y a la vie et la mort, Mais Dieu dit choisis la vie. Il n'y a que la vie en fait. Choisir la mort, c'est de se détourner de la vie, or il n'y a que la vie. Choisis la vie, toi et ta descendance, afin que tu vives. Isaïe 45, 7, alors là c'est un verset très compliqué pour lequel saint Thomas a fait un commentaire encore plus compliqué. Hein. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ce verset est assez isolé, heureusement. Hein. Mais voilà, il faut quand même s'expliquer avec ce verset. Hein. Alors, dans le Siracide, il y a toute une série de versets que je vous ai mis là. Bien et mal, vie et mort, pauvreté et richesse, tout vient du Seigneur. Je l'avais mis en sous-titre. Un peu plus loin, c'est lui qui au commencement a fait l'homme et l'a laissé à son conseil. Alors ça c'est souvent cité. Hein. Dieu a créé l'homme et l'a laissé à son conseil. Ça veut dire qu'il lui a créé une liberté et il lui a dit maintenant guide-toi avec ta liberté. Il l'a laissé à son conseil. Devant toi, il a mis le feu et l'eau, selon ton désir, étends la main. Devant les hommes sont la vie et la mort. À leur gré, l'une ou l'autre leur est donnée. Alors vous allez dire, l'une ou l'autre leur est donnée. Ben non, moi je choisis la vie, mais je vais quand même mourir. Hein. Ah ben c'est peut-être que dans ce cas-là, les concepts de vie et de mort sont différents de ce qu'on croit immédiatement. Hein. Donc devant les hommes sont la vie et la mort. Ben oui, enfin au bout c'est quand même la mort. Hein. À leur gré... L'un ou l'autre leur est donné. Ben, ce n'est pas tellement à leur gré. Sauf si le concept de vie est différent du concept simplement biologique. Et le concept de mort aussi différent du concept biologique. Siracide 16, lorsqu'au commencement Dieu créa ses œuvres, sitôt fait, il leur attribua une place. Il leur donna ses œuvres pour l'éternité. De toute espèce d'animaux, il en couvrit la face et ils retourneront à la terre. Donc la création des animaux, entre autres, hein, eh bien, est immédiatement vue comme une création qui fera retourner les animaux à la terre. Ici, on ne parle pas de péché entre les deux. Dieu a, au commencement, créé ses œuvres, et il a dit que les animaux retourneront à la terre. Siracide 17, le Seigneur a tiré l'homme de la terre pour l'y renvoyer ensuite. Tout de suite, mais enfin, pour les renvoyer quand même. Hein. Il a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps déterminé. Voilà, ça c'est une, quand même, ce sont des discours de la sagesse du Siracide sur la création. Et on voit bien qu'à l'époque du Siracide, ben, on a déjà élaboré hein, cette idée de la finitude de l'homme. Et quand même, ben, voilà, on a à choisir entre la vie et la mort, et à notre gré, nous choisissons la vie ou la mort. Même si nous retournerons hein, certainement à la poussière, nous pouvons choisir la vie. Même en retournant à la poussière. Parce que ce n'est pas de cette vie-là qu'il s'agit d'abord. Siracide 33. Vis-à-vis du mal, il y a le bien. Vis-à-vis de la mort, la vie. Ainsi, vis-à-vis de l'homme pieux, le pécheur. Ah, c'est aussi une opposition intéressante. Hein. Vis-à-vis de l'homme pieux, le pécheur. Contemple donc toutes les œuvres du Très-Haut. Toutes vont par pair en vis-à-vis. Voilà, il y a la vie et la mort, il y a l'homme pieux, il y a le pécheur. Peut-être qu'ils vont mourir tous les deux, et que l'un ira à la vie, l'autre à la mort, ou bien... Texte semblant favorable à une causalité physique plus directe. Péché, mort. Alors, saint Paul dans Romains, qui reprend d'ailleurs Sagesse, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché, etc. Il continue son raisonnement. Alors donc je vous fais remarquer que le Siracide parlait de par l'envie du diable, hein, la mort est entrée dans le monde. Mais saint Paul considère qu'il y a entre les deux l'homme, le péché et puis la mort. Hein? Il développe la formule, si on veut. C'est le péché qui est entré dans le monde à cause de l'homme, et à cause du péché, la mort. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, on connaît cette formule, mais on oublie souvent de dire la suite. Hein. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je crois que c'est le contraste que saint Paul cherche à donner. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont mortelles, et le péché, on sait bien qu'il ne mène pas à grand-chose, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Je crois que le passage hein, entre Adam et le Christ est essentiel pour saint Paul. Il ne parle que d'Adam que dans la mesure où il a envie de parler du Christ. Adam, je ne sais pas si ça l'intéresse vraiment en lui-même, c'est le Christ qui l'intéresse. Et il fait le contraste avec Adam. Ce que l'un a apporté, eh bien, est complètement dépassé, combien plus hein, par ce que le Christ a apporté. 1 Corinthiens 15, 21, « Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. » Un homme. Ici, c'est l'insistance sur un homme. Adam était considéré comme unique, bon, peu importe. Mais le Christ uniquement, unique, à lui tout seul, eh bien, renverse complètement la situation. Jacques 1, alors Jacques, c'est aussi intéressant parce que c'est beaucoup plus une actualisation à la vie de chacun. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leur. Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Donc ici, il développe encore un petit peu, hein. Ici, à la convoitise encore entre le péché et entre l'homme et le péché, la convoitise. Alors, analysons un peu de manière plus approfondie Sagesse 1, 2 et même 3, et voyons que le contexte est vraiment moral et pas métaphysique. Hein. Il ne parle pas de l'être de la vie biologique. Ça commence comme ceci : ne courez pas après la mort par les égarements de votre vie. C'est par les égarements de votre vie que vous courez après la mort. N'attirez pas sur vous la ruine par les œuvres de vos mains. Donc on met en garde le pécheur, tu es occupé à avancer vers la mort par ta conduite. Dieu, lui, n'a pas fait la mort. Laquelle ? Celle que le pécheur, lui, est occupé à fabriquer. Mais au jour le jour, hein ? Dieu, lui, n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de la perte des vivants. Il a créé l'univers pour qu'il subsiste. Les créatures du monde sont salutaires. En elles, il n'y a aucun poison de mort. Et l'Hadès ne règne pas sur la terre. Ce sont des formules hein, pour dire que voilà, bien. La terre en soi, elle est saine. Il n'y a pas de poison de mort. Car la justice est immortelle. Si on vit dans la justice, eh bien, il y a une sorte d'immortalité dès cette terre. C'est nous qui courons après la mort par les égarements de notre vie. Mais les impies appellent la mort. Dans cette formule poétique, hein, les impies appellent la mort du geste et de la voix, par leurs actes et par leurs paroles. La tenant pour amie, ils se consument avec elle, ils font un pacte. Les pécheurs font un pacte avec la mort. Aussi bien sont-ils dignes de lui appartenir. Voilà. S'ils font un pacte avec la mort, eh bien, voilà. C'est très bien, ils sont dignes de lui appartenir, ils vont mourir. Ils mourront, ils sont mortels, ils sont... C'est pas à ça que Dieu les appelle, évidemment. Mais s'ils appellent la mort du geste et de la voix, ben, elle viendra. Elle viendra et on devient digne à ce moment-là d'appartenir à la mort. Alors j'ai mis entre parenthèses le grec, hein, parce que c'est une formule un peu complexe. Ils sont de cette partie-là. Hein. Ils appartiennent à la mort parce qu'ils veulent lui appartenir. Alors on passe à Sagesse 2. Car ils se disent en leur faux calcul. Le chapitre 1, c'était le pécheur en lui-même. Maintenant, c'est le pécheur par rapport au juste. Car ils se disent en leur faux calcul, courte et triste est notre vie. Ben oui, quand on court après la mort, la vie est courte et triste. Hein. À l'œuvre donc, jouissons des biens véritables, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. On sent là le discours de l'hédoniste, hein, du jouisseur. Mais pas seulement cela, opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, condamnons-le à une mort infâme. Donc le pécheur non seulement provoque la mort pour lui-même, mais il veut provoquer la mort du juste. Il veut envoyer le juste à la mort, une mort infâme, puisque à l'entendre le juste, le secours lui viendra. Ainsi raisonne-t-il, mais il s'égare. Ils ignorent les secrets de Dieu. Ils n'attendent pas de rémunération pour la sainteté. Cette rémunération pour la sainteté, c'est la vie éternelle. C'est la vraie vie. Ils n'attendent pas de rémunération pour la sainteté. Ils ne veulent pas croire à la récompense des âmes pures. Oui, Dieu a créé l'homme incorruptible. Incorruptible, ça ne veut pas encore dire immortel, hein, mais incorruptible, ça veut dire qu'on ne peut pas le tuer. Même si on le tue injustement, eh bien, il y aura la rémunération pour sa sainteté. Dieu a créé l'homme incorruptible. Il en a fait une image de sa propre nature. Mais c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et la même finale, hein, verset 16, verset 24, ce sont les deux versets finaux des chapitres 1 et 2, ils en font l'expérience, ceux-là qui lui appartiennent. Que la mort est entrée dans le monde par le diable, ceux-là le savent, ceux qui sont du parti du diable. Ils le savent, et eux le savent mieux que personne. Et en fait, le juste qui meurt, eh bien, il n'est pas d'accord avec ça. Et Dieu non plus. Et c'est pourquoi le juste, eh bien, connaîtra l'incorruptibilité et la récompense de sa sainteté. Donc voilà, vous voyez les deux formules là que j'ai mises en gras. Dieu n'a pas fait la mort, c'est l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ce sont deux formules qu'il ne faut pas absolutiser, mais voir dans ce contexte moral. Et ça continue d'ailleurs. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Leurs âmes sont dans la main de Dieu. Personne ne peut les tuer. Et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Ils ont paru mourir. Le diable a introduit la mort dans le monde. Et ceux qui en font l'expérience, ce sont les injustes. Mais les justes, ils paraissent mourir, mais ils passent à la vie éternelle. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ a été tenu pour un malheur. Ça rappelle Peggy, hein ? A été tenu pour un malheur. Eh bien non, c'est un heureux passage. S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance est pleine d'immortalité. Mais les impies auront un châtiment conforme à leur pensée. C'est les impies qui goûteront la mort, parce que la mort est conforme à leur pensée. Le juste ne connaîtra pas la mort, même s'il meurt, persécuté par les injustes, parce que leur espérance est pleine d'immortalité. Ils paraissent mourir seulement, mais leur âme est dans la main de Dieu. Voilà, je crois qu'on peut relire ce texte, hein, avec cette clé de lecture qui me semble, à moi, s'imposer au niveau exégétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tirer peut-être une extrapolation un peu métaphysique ou un peu dogmatique, mais le sens premier du texte, il est moral. Ça veut dire que le pécheur, il secrète la mort par ses gestes. Il tue le juste, mais en le tuant, il révèle sa propre mort. Et finalement, il fait passer l'autre à la vie éternelle. Et c'est donc ce contraste, me semble-t-il, qui est important à voir, parce que ce très beau texte de la sagesse évoque évidemment la vie du Christ, déjà, par avance. Ça s'applique parfaitement à la vie du Christ. Et je crois d'ailleurs que c'est vraiment cela qu'il faut retenir, c'est le parallèle avec le Christ. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la vraie vie. Mais je suis crucifié avec le Christ, pour le monde, et le monde pour moi. Donc, je dirais, les notions de vie et de mort ont complètement changé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est loin de... Il n'y a plus de mort physique qui existe, non, mais cette mort physique prend un sens. Si c'est celle du pécheur, eh bien, c'est un désastre. Si c'est celle du juste, eh bien, c'est le passage à la vie éternelle. Et dès cette vie-ci, l'impie mène une mort vivante, si j'ose dire, et le juste, il vit déjà de la vie éternelle, de la vie de Dieu. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir je dirais, l'ensemble de notre réflexion sur, sur la vie et la mort. Donc, oui, nous sommes sans doute des créatures finies, mais la vie que Dieu veut nous donner, c'est une vie de surabondance, une vie de grâce, hein, qui dépasse largement les questions de savoir si on meurt à tel ou tel âge ou telle manière, parce que dans la grâce et dans la, je dirais, dans l'esprit que nous a donné le Christ, nous pouvons vivre toute notre vie. Eh bien, comme cette vie dense que Dieu nous donne à vivre, cette vie de grâce, cette vie d'amour, hein, qui est la vraie vie et qui passe toutes les épreuves de cette terre, y compris l'épreuve de la mort, la nôtre et celle de nos bien-aimés, nous pouvons, dans cette grâce, eh bien, connaître la vraie vie à travers cette vie du juste qui est décrite par le livre de la sagesse. Et donc j'insiste pour... en conclusion, pour faire toujours le parallèle avec le Christ. Hein. Ce n'est pas Adam et la mort qu'Adam nous a procuré qui intéresse saint Paul. C'est de faire le parallèle et le combien plus. Le parallèle, Adam nous a apporté la mort et le Christ, par sa mort, nous apporte la vie. Et combien plus. Combien plus. Hein. Il y a eu là, eh bien, un passage de la vie à la mort. Eh bien, le Christ, en repassant par cette mort... et en la transformant, il en fait une surabondance de vie, dès aujourd'hui. Il y a ce fameux verset hein, que de la deuxième aux Corinthiens, Dieu l'a fait pécher pour nous. Dieu l'a fait pécher pour nous. Alors, il y a une interprétation, je crois que j'ai déjà fait allusion dans un des débats. En fait, après le cours donc, hein, en fait, le pécheur est toujours à distinguer de son péché. Et heureusement, parce que comme ça, il peut s'en détacher, hein, il peut y renoncer, il peut être purifié, revivifié, parce que son péché est éloigné de lui. Mais le Christ, eh bien, il prend sur lui le péché et il s'identifie à ce péché. Il a été fait péché pour nous, non pas en devenant un pécheur, mais en étant fait péché, ce que je comprends comme, lui, il garde ce péché, de manière à ce que nous ne puissions plus le reprendre, si on veut. Et de manière à ce que lui puisse le clouer sur la croix et en faire une source de vie. Lui, il a été fait péché, non pas parce qu'il est pécheur, mais parce qu'ainsi, il saisit hein, toute notre condition, tous nos péchés, de manière à ce que nous ne puissions, il ne puisse plus nous faire du mal. Hein, et le seul mal qu'il fait, c'est à lui, mais que son Père transforme en une résurrection. Romains 5, 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Parallèle, hein. La faute, le don gratuit. Car s'il par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, polloimalon, hein, en grec, à plus forte raison, a fortiori, et davantage. La grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Voilà, si vous vous lamentez sur la mort, eh bien, pensez à la vie que le Christ vous donne en surabondance et abandonnez cette lamentation pour entrer dans ce qui vous est offert. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, voilà, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette vie éternelle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans un cosmos, dans une sphère de New Age, elle est dans la vie du Christ, hein, ressuscité. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans saint Jean, il y a aussi beaucoup de belles formules sur la vie éternelle, qui n'est pas du tout représentée comme une vie dans un monde au-delà, hein, dans un arrière-monde, mais comme une connaissance dès aujourd'hui de Dieu, et une connaissance telle que eh bien, la vie que nous vivons est déjà transfigurée, et aussi bien sûr la mort que nous ne, par laquelle nous passerons inévitablement, est déjà transformée par avance. Et nous pouvons nous y préparer. Voilà, nous nous arrêtons ici.